Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport.
On se met en mode combat dans Cap Sport. Le combat pour décrocher des médailles aux championnats du monde de ski alpin. Le combat aussi pour organiser une compétition internationale d'uni-hockey dans l'arc jurassien. Les mondiaux féminins se tiendront en décembre à Neuchâtel alors que le tirage au sort des groupes s'est fait hier. Et puis le combat enfin, le vrai de vrai, sur le ring ou dans une cage. La pratique du MMA, les arts martiaux mixtes, est en plein essor. Focus en fin d'émission à 24h du 8e Lions Fighting Championship.
Cap Sport, Mathieu Schaffner.
Bonsoir, les Latopiers, on prend tout de suite la direction de la Suède. Auray, très exactement, c'est là que se tiennent jusqu'à dimanche les championnats du monde de ski alpin. La deuxième manche du géant masculin se tient d'ailleurs en ce moment, raison pour laquelle notre envoyé spécial n'est pas en direct avec nous, mais on a tout de même pu le joindre aujourd'hui pour dresser un premier bilan de ces mondiaux et évoquer bien sûr les performances de la délégation suisse. Déjà 4 médailles pour les Helvètes, 2 fois l'or, 1 fois l'argent, 1 fois le bronze. Alors, a-t-on déjà dépassé les espérances? Réponse avec notre envoyé spécial, Hugo da Custodia.
On n'a pas dépassé les espérances parce que, il reste encore quelques breloques à aller chercher. La délégation suisse voulait plutôt en obtenir 5 ici à Auray, mais on comptait sur Beat Feuth pour en gratter une. Alors, on peut dire que ça a été quelque part compensé par la belle surprise Corinne Souter et les deux médailles en vitesse qu'elle est allée chercher. Mais on n'a pas encore atteint tout à fait ni dépassé les espérances de Swiss Ski ici en Suède.
On va détailler effectivement ces médailles, les performances du ski suisse. Dans ces médailles, il y a bien sûr Wendy Holdener, la schwitzoise sacrée en combiné, dans l'épreuve par équipe également. Est-ce que ça peut lui permettre d'aller jouer la victoire en slalom avec toute la confiance accumulée?
Ouais, Wendy, c'est vraiment la locomotive de cette délégation suisse féminine. Bien sûr, il y a eu Corinne Souter, mais elle s'est plutôt révélée ici en Suède. Wendy Holdener, c'est un peu la force tranquille. On en avait échangé un petit peu avec l'ancienne championne Erika Hess, qui la voyait vraiment une fille avec du tempérament. Et ça s'est confirmé ici en Suède. D'abord parce qu'elle a réussi à confirmer, à obtenir de bons résultats, que ce soit lors du combiné où elle était quand même favorite, il faut le dire, mais aussi lors du team event où elle a pleinement joué son rôle. Et puis, lorsque ça ne marche pas, eh bien, c'est une fille qui n'arrive pas à se satisfaire d'elle-même, qui veut toujours plus. Lors du Super G, ce n'était pas sa discipline. Elle était quand même assez fâchée contre elle-même, en tout cas mécontente de sa performance. Et puis hier encore, au terme d'un géant féminin pourtant disputé dans des conditions difficiles, elle était de nouveau pas contente d'elle-même. Ce qui prouve bien qu'elle a toujours envie de progrès et de résultats. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a d'autres filles qui tournent très très bien en slalom. Mikaela Shiffrin, bien sûr, Petra Vlova, championne du monde de géant hier ici en Suède. Donc elle aura des rivales. Elle aura aussi un autre adversaire de taille, si j'ose dire, c'est cette météo qui est super spéciale ici à Auray. Mais on peut quand même miser sur Wendy Holdener pour une troisième médaille, parce que c'est quand même la grande dame de ces mondiaux côté suisse pour l'instant.
L'autre, alors pas grande dame, mais grand homme plutôt, c'est Ramon Zeynhuizen, ultra dominateur dans le team event qu'a porté cette équipe de Suisse. Est-ce que ça peut se transposer sur le slalom de dimanche pour le Haut-Valaisan?
Les Valaisans sont assez confiants, mais il faut aussi, pour remettre un petit peu dans le contexte, le slalom parallèle, c'est une discipline assez spéciale, assez spécifique. Et c'est vrai que Ramon Zeynhuizen, avec sa taille, avec sa tactique aussi de boxer les portes, est presque taillé pour cette épreuve. Et en plus, il a pignolé. Les Suisses ont très, très bien préparé, très, très bien joué le coup tactiquement aussi pour l'emporter dans cette épreuve particulière. Par contre, lors du slalom, avec une neige un peu molle, alors que les Suisses préfèrent plutôt des neiges agressives, avec Christophersen, Hirscher, qui va faire aussi son entrée dans ces épreuves techniques, les Suisses devront quand même aligner 2 manches de très très haute qualité pour pouvoir espérer une médaille. Ça sera quand même, on va le dire, plus compliqué au vu de la densité présente dans le plateau masculin pour les Suisses d'aller confirmer leurs excellents résultats en slalom. Mais on peut se dire quand même qu'avec Loïc Meillard, Daniel Yule et donc Ramon Zeynhuizen, on a quand même une chance là aussi d'aller accrocher un podium.
Du coup, 2 médailles ce week-end pour les techniciens suisses, c'est plutôt un rêve pour le moment.
C'est quelque part entre rêve et objectif. Ils nous l'avouent tous à demi-mot. La médaille mondiale, c'est bien sûr le rêve d'une vie, comme une médaille olympique d'ailleurs. Après, il faut se dire que Ramon Zeynhuizen et Wendy Holdener ont déjà eu la chance d'avoir des breloques qui sont peut-être un peu plus libérés. Pour Daniel Yule, qui s'était autoproclamé champion du monde du choix des coéquipiers parce que ses performances n'étaient pas à la hauteur espérée lors du team event, eh bien, il s'agira aussi de retrouver un peu de confiance et pleinement ses marques de nouveau sur cette neige suédoise très particulière.
Vous l'avez dit, il y a une jeune femme qui s'est pleinement révélée sur ces championnats du monde. C'est Corinne Souter, médaille de bronze en super-G, médaille d'argent en descente. Comment on perçoit cette éclosion sur place en Suède dans le camp suisse?
Pour ceux qui la connaissaient, c'est simplement la suite logique, une confirmation de ses résultats. Elle qui avait déjà obtenu plusieurs quatrièmes places. Il faut dire qu'elle revient de loin aussi. Elle a connu des saisons par le passé assez compliquées. C'est le ski, c'est les blessures. C'est toujours difficile de revenir au plus haut niveau. Et puis effectivement, pour ceux qui ne la connaissaient pas, c'est une révélation. C'est une sorte de rayon de soleil. Là où on attendait plutôt, par exemple, Lara Gut-Verani, eh bien, c'est Corinne Souter qui, au fil de la semaine dernière, a encore poussé sa motivation. Elle était en plus émerveillée. Elle s'est sentie à l'aise directement ici à Åre en Suède. Et puis donc, elle a confirmé avec cette médaille en descente. Il faut aussi là, de nouveau, tout remettre dans le contexte avec des manches raccourcies, une météo très spéciale. Mais quand même, elle a su jouer dans la cour des grands et elle a magnifiquement réussi ses mondiaux.
Tiens d'ailleurs, Hugo, sur place à Åre, comment ça se fait une médaille suisse dans ces championnats du monde?
Alors ça, j'ai déjà pu, au gré de mes reportages, un petit peu en rendre compte. La maison suisse est ici installée au milieu d'Åre. Åre, il faut savoir que c'est un petit village où vivent à l'année à peu près 1500 habitants. C'est sûr que là, la station a quadruplé ou quintuplé de volume pendant ces mondiaux. Mais la maison suisse est donc située dans l'allée qui mène jusqu'à la place improvisée où on fête les médailles et les médaillés. Et du coup, c'est vrai que les Suisses vont toujours un petit peu effectuer le même parcours. Ils sont d'abord reçus dans cette place des médailles, l'hymne suisse résonne, et puis ensuite, après quelques obligations médiatiques, les Suisses filent dans leur maison, dans leur antre, pour déguster une fondue, pour écouter quelques chansons venues tout droit des Alpes bernoises, et puis fêter tout ça dans une bonne ambiance. On a déjà pu assister à ces quelques fêtes depuis le début de cette quinzaine. On espère encore avoir droit à un petit peu de Suisse ici en Suède et de belles fêtes avec des médailles.
Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas encore des satisfactions. Il faut évoquer aussi les déceptions forcément, ou bien la grande déception dans le camp suisse, c'est forcément l'absence de médailles autour du cou de Beat Feuz.
Ouais, c'était le premier déçu, Beat Feuz, bien sûr. Alors, il a réagi un petit peu à chaud l'autre jour. Il n'a pas caché sa sorte de désarroi lié à ses conditions, à ses manches raccourcies. En Super G, la déception était moyenne parce qu'il nous l'a dit à plusieurs reprises cette saison, le Bernois, le Super G, pour lui, c'est une sorte de loterie. Il a beaucoup de peine à trouver ses réglages. Et en plus, quand les neiges et les conditions météo sont changeantes, c'est un travail qui est encore plus délicat. Par contre, pour la descente, il s'est vraiment donné à fond. Il s'est battu comme il pouvait, mais avec une descente raccourcie, le lot des favoris s'agrandit et ça s'est joué finalement à 11 centièmes et il l'a clairement dit. Les seuls heureux de ce dénouement, c'était les trois sur le podium. Les autres étaient un peu plus frustrés de voir cette course se disputer dans des conditions dantesques. On ne peut rien reprocher franchement à Beat Feuz, car il a vraiment, dans des conditions délicates, donné le meilleur de lui-même et échoué à 11 centièmes, ce n'est rien. Mais par contre, on peut être déçu pour lui, parce qu'évidemment, c'est l'un des meilleurs descendeurs de la planète. Et le jour J, lors de la course phare de sa saison, ça n'a pas tourné, en tout cas les centièmes ne sont pas allés de son côté.
Ces descentes raccourcies, à peine plus d'une minute, on doit parler de mondiaux au rabais un peu dans cette discipline-là?
Ouais, c'est très difficile. Hein. Franchement, on ne veut pas jeter la pierre aux organisateurs. On a pu échanger, par exemple, avec l'ancien skieur français, Luc Alphand, ou encore la maman de Frédérica Brignone, qui est une journaliste, ancienne skieuse. Ce sont des gens qui, pareil, ne jettent pas la pierre aux organisateurs, mais qui parlent quand même de mondiaux très, très particuliers. On sent quand même une frustration chez les athlètes. Depuis le début de ces mondiaux, il n'y a pas eu une épreuve disputée dans des conditions régulières. Le vent, la neige, le froid, des manches raccourcies, même en technique. Et puis cette météo, il faisait moins 20 au début de la semaine lors de laquelle nous sommes arrivés. Et là, aujourd'hui, le soleil brille, le lac gelé commence à fondre et il fait des températures de 5-6 degrés. Et c'est vraiment très, très difficile pour tout le monde. Les organisateurs, franchement, on voit les volontaires s'activer sur la piste au milieu de la nuit. On ne peut pas leur reprocher grand-chose. Mais c'est sûr que dans des championnats du monde, il y a 11 épreuves à caser en 14 jours et un report ou une annulation est lourd de conséquences. Donc ici, on essaie quand même de faire tourner la machine, mais ça nous donne effectivement des courses un petit peu bizarres. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand même, les costauds, les meilleurs de la Coupe du Monde sont en général aux avant-postes, se font moyennement piégés, on dira, mais c'est vrai que ça nous donne des mondiaux très particuliers.
Et puis Hugo, peut-être avant de vous laisser retourner sur les pistes, encore un petit mot avec l'annonce de la semaine, l'arrivée du slalom parallèle et puis le maintien du combiné lors des prochains mondiaux à Cortina d'Ampezzo, ce sera dans 2 ans. Ces annonces-là, comment elles sont perçues dans le camp suisse en Suède ?
Ouais, c'est une sorte de compromis. Hein. On ne sait pas où elle a été prise et quand elle a été prise, cette décision. Mais c'est vrai que les spécialistes, en tout cas les amateurs, les amatrices de combiné se réjouissent que le combiné reste. Par exemple, la Française Anne-Sophie Barthen disait « Je ne suis pas forcément pour le remplacement du combiné par le parallèle, mais plutôt pour l'ajout. » Et c'est un souhait des athlètes qui a finalement été entendu. Ça veut dire que les skieurs polyvalents, qui sont peut-être une espèce en voie de disparition, auront toujours leur mot à dire dans cette discipline du combiné avec une manche de vitesse, une manche de slalom. Et puis, ceux qui préfèrent plutôt le sport spectacle, on dira, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, le parallèle, c'est plutôt des courses faciles à suivre, c'est des duels, c'est un contre un, c'est des formats qui sont aussi appréciés par une certaine frange d'athlètes et surtout par les médias, parce qu'ils peuvent caser ça en télé et c'est facile à expliquer. Il y en a un qui gagne, un qui perd et on passe à la suite. Donc c'est aussi un format qui va sans doute trouver sa place. Ça rajoute quand même une contrainte, 2 épreuves de plus à caser dans des mondiaux dans 2 ans à Cortina en Italie.
Hugo de Custodia, notre envoyé spécial à Auré, qu'on a pu joindre en fin de matinée. C'était avant le géant masculin qui est en passe de se terminer du côté de la Suède. Le dernier concurrent, Alexis Pinturo, vainqueur de la première manche, est en piste. Et au dernier temps intermédiaire, il compte 2 dixièmes de retard sur Henrik Kristoffersen, le Norvégien qui mène les débats devant l'Autrichien Marcel Hirscher. Et puis pour l'heure, la 3e place pour Loïc Meillard. Mais le Neuchâtelois des Raymonds, c'est à l'instant bouté hors du podium, médaille en chocolat donc pour Loïc Meillard. Victoire du Norvégien Henrik Kristoffersen devant Marcel Hirscher à 2 dixièmes. Et puis le Français Alexis Pinturo à la 3e place.
Cap Sport jusqu'à 19h.
Place à présent au 2e combat de ce Cap Sport, celui de mettre en vitrine un sport peu connu du grand public. C'est ce qui va se produire en décembre à Neuchâtel. Les championnats du monde féminin d'unihockey s'y dérouleront. Alors oui, c'est encore loin, mais le tirage au sort des groupes a été effectué hier à Ittigen. La Suisse défiera l'Allemagne, la Pologne et la Finlande, vice-championne du monde dans le groupe A. La Suisse qui vise le titre. Ce rendez-vous à Neuchâtel sera historique. Ce seront les premiers mondiaux d'unihockey à se tenir dans une ville francophone. Le président de la Fédération internationale, le Suédois Thomas Eriksson.
It is important for Switzerland as a country. It is important for international floorball because there are so many French-speaking.
C'est important pour la Suisse, mais c'est également important pour l'IFF, puisqu'il y a de nombreux pays francophones autour du monde. Ces mondiaux permettront donc de faire la promotion, de faire connaître le unihockey dans ces pays-là.
That's why I'm so happy that the Swiss Floorball Federation has gone to the French-speaking part. We will, after these events, also in Neuchâtel, I'm quite certain that we will see more spectators than in the last VFCs for the women's.
On est persuadé qu'il y aura plus de spectateurs qu'au dernier championnat du monde, mais aussi plus de télévision présente. Ces mondiaux à Neuchâtel seront donc un bon outil de promotion du unihockey à la télévision, sur les réseaux sociaux et sur YouTube.
On social media and TV and YouTube.
Ces championnats du monde seront organisés par Swiss Unihockey, le club de Corcelles-Cormandrèche. Alors on est déjà en pleine effervescence. Une étape importante vient d'être franchie avec ce tirage au sort. Le président du comité local d'organisation, Cédric Jacou.
C'est une bonne étape de fête. C'est surtout vraiment pour nous le moment où tout se cristallise et tout se met en place. Et on va enfin pouvoir commencer les planifications un peu plus fines.
C'est-à-dire, quel est le travail du comité d'organisation de Corcelles-Cormandrèche pour ces championnats du monde ?
Alors maintenant, on peut déjà envoyer les informations aux équipes, nation par nation. et puis attendre leur retour. Et puis peut-être qu'il y aura des demandes de nations pour différents aménagements ou autres. Et donc, pour nous, c'est vraiment le... On était dans les starting blocks et puis maintenant, le starter a donné le coup de départ.
Parce que concrètement, 16 équipes qui vont débarquer à Neuchâtel avec aussi l'entourage, le staff, ça fait beaucoup de choses à gérer. Ça, c'est tout le comité local qui va devoir loger ces athlètes à Neuchâtel et plus largement dans la région neuchâteloise et même romande.
Oui, alors ça déborde carrément Romandie, hein, puisqu'on sait que l'autre côté du lac de Neuchâtel sera pas mal impliqué. Je pense que tout le tour du lac de Neuchâtel sera impliqué pour les nuits d'hôtel. On est bien aidé pour ça par Neuchâtel Tourisme. Et y a aussi, pour les équipes, c'est presque facile, on va dire, parce qu'on peut planifier à l'avance. Par contre, tous les spectateurs qui vont venir, il y a eux, quand ils sont sur place, il faut qu'on leur fasse une offre aussi pour les repas, les boissons, qu'on montre que Neuchâtel est une ville accueillante et puis qu'on sait recevoir les gens.
Concrètement, pourquoi s'être lancé dans cette aventure, accueillir les championnats du monde comme ça, un événement pareil à Neuchâtel?
Ah, c'est une bonne question, il aurait fallu nous la poser plus tôt, parce que je crois qu'aujourd'hui on dit qu'on est un peu fou de s'être lancé là-dedans, mais on adore ça, quoi. On a juste envie que notre sport se développe, qu'il y ait quelque chose qui se passe, un événement de portée mondiale qui se passe dans notre région, et puis on espère faire ripper vraiment l'Uni-Hockey en Romandie, et puis développer tous les clubs de la région. C'est pas que pour nous qu'on le fait, hein. On a vraiment envie que tout le monde en profite, et puis qu'en Romandie, quand on dit Uni-Hockey, ça parle à tout le monde.
Le vœu qui est exactement le même du côté de la Fédération Nationale, développer cette discipline en Romandie, la Romandie qui ne recense que le 10% des licenciés du pays. Alors pour y arriver, il faut que ces mondiaux soient un succès populaire, et pour cela il faudra transformer les patinoires du littoral et la salle de la riveraine en véritable arène d'Uni-Hockey. Le chef de projet pour Suisse Uni-Hockey, Reto Giger.
La patinoire du littoral, on va transformer dans une salle d'Uni-Hockey. On va faire une atmosphère d'Uni-Hockey, une atmosphère de la championnat du monde. On a une dégradin supplémentaire pour qu'on arrive à faire une très très bonne atmosphère pour que c'est un très bon événement pour les spectateurs.
Parce que les spectateurs, on attend 30, 40 000 spectateurs pratiquement sur l'ensemble des championnats du monde.
En total, nous espérons d'arriver à 35 000 personnes qui voient tous les matchs dans les deux salles. Ce que nous voulons faire, c'est vraiment que l'événement a une présence dans la ville, que c'est quelque chose de grand pour la ville, que tout le monde peut profiter de ce championnat, tout le monde peut venir au championnat du monde, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la ville de Neuchâtel.
Et ce quelque chose d'extraordinaire à Neuchâtel, ce sont les championnats du monde féminin d'Uni-Hockey. Prenez note dans votre agenda du 7 au 15 décembre aux patinoires du littoral et à la salle de la riveraine. Un dossier qui était réalisé par Yannick Frossard.
Cap Sport jusqu'à 19h.
Et pour terminer, en beauté, ce Cap Sport, on grimpe sur le ring, une véritable cage même, direction le MMA, les arts martiaux mixtes qui sont en plein essor en Suisse. Et vous le verrez notamment ce samedi si vous vous rendez à la riveraine à Neuchâtel. La 8e édition du Lions Fighting Championship est organisée par Nelson Carvalho et toute son équipe. Alors vous avez quand même pris le temps de nous rejoindre, Nelson Carvalho, en plein préparatif. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dites au travers de cette manifestation, vouloir promouvoir les sports de combat, le MMA notamment, ceci auprès des jeunes. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt les protéger de ces scènes de violence qu'on peut voir sur un ring?
Alors, c'est toujours un peu les mêmes questions. Scènes de violence, non, parce qu'en fait, on inculque des bonnes valeurs à nos combattants et à tous les jeunes qui s'entraînent chez nous. Au contraire, on leur prouve que grâce au sport de compétition, on peut... avoir de bonnes valeurs dans la vie et éviter tous les choses à côté qui se trouvent dans la rue et ces vraies violences qui se passent dans les cours de récréation, parce que ces jeunes, ils sont pas éduqués, en fait, tout simplement.
Et donc vous, grâce à une éducation sportive, on arrive à casser ces clichés?
Ça fait plus de 10 ans que le Fight Move Academy existe et on a formé de nombreux jeunes, dont des grands champions. Et la première chose qu'on veut faire, c'est justement leur inculquer des bonnes valeurs, oui.
Ce que vous nous dites aussi, finalement, c'est que le MMA aujourd'hui, c'est pas qu'un sport de force, pas qu'un sport de cogneur. On doit se détacher de cette image-là.
Bien sûr, maintenant. Alors, avant, c'était des combattants, maintenant, c'est des athlètes. Dans tous les pays, actuellement, on fait vraiment bien la différence. Et on voit qu'au niveau de la préparation, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de la vie de tous les jours, c'est vraiment des athlètes et qui transmettent toutes ces valeurs au sport.
Il faut de la force, bien sûr, être performant en MMA, en arts martiaux mixtes. Mais qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être performant, comme vous le dites, pour devenir une vedette peut-être?
Maintenant, pour faire la différence, il faut être surtout intelligent, parce qu'on doit être beaucoup plus technique, bien préparer sa stratégie de combat pour gagner. Parce que tout le monde, au final, maintenant, s'entraîne de la même chose. Tout le monde est fort, tout le monde est endurant, tout le monde est explosif. Et après, c'est vraiment dans la tête que tout se joue.
Dans la tête, on imagine du coup que Volkan Özdemir, l'un des tout meilleurs combattants au monde hein, en UFC du côté des États-Unis, c'est dans la tête que ça se joue aussi. Vous l'avez côtoyé de près, vous l'avez entraîné d'ailleurs. En parlant de Volkan, est-ce que c'est une exception pour notre pays, un peu à l'image d'un Roger Federer en tennis?
Alors pour parler de Volkan actuellement est à Neuchâtel. Il est de retour aux sources, hein, comme on dit, pour préparer l'UFC Londres le 16 mars. Il est revenu faire sa préparation chez moi, pour montrer qu'en Suisse, on a vraiment tous les moyens pour arriver au sommet.
Mais donc, à bien vous comprendre, Volkan, ce n'est pas forcément une exception. On peut, en Suisse, percer, devenir professionnel dans ces sports-là?
Bien sûr que oui. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une académie, de pouvoir vivre de mon sport ainsi que l'académie. Mais il y a de nombreux jeunes qu'on forme, qui poursuivent des études ou qui font masseur, coach sportif en parallèle pour pouvoir vivre de leur passion.
On l'a dit, le MMA, les arts martiaux mixtes qui sont en plein essor. Du coup, est-ce que c'est peut-être plus facile aujourd'hui qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années de percer dans cette discipline-là? Est-ce qu'on arrive à surfer vraiment sur ce phénomène de société?
Bien sûr. Alors, ce qui s'est passé, moi, j'étais un des pionniers en Suisse. C'était très, très difficile parce qu'on n'avait aucune reconnaissance. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens qui nous dénigraient ou ne croyaient pas en nous, ils nous respectent et ils sont fiers de ce qu'on a réussi à accomplir. Pour la petite parenthèse, Volkan, il sera aussi présent durant le Lions FC, hein, pour revenir sur lui, pour faire une petite dédicace à tous ses fans et faire une séance photo pour justement nous aider à promouvoir ce sport et être plus proche du public.
Voilà une belle promotion pour ce sport. Près de 1000 spectateurs qui sont attendus à la salle de la Riveraine. Mais un spectateur qui vient justement dans un événement comme celui-là, qu'est-ce qu'il recherche? Parce qu'on l'a dit en début d'émission, on veut essayer de casser cette image de cogneur simplement sur le ring.
Alors, faut pas se leurrer, ça reste des sports de combat. C'est-à-dire qu'on vient aussi regarder le spectacle, tout ce qu'il y a autour, l'organisation, et voir les performances des combattants. Mais ce que vous allez voir, comme tous les gens qui étaient là durant la précédente édition en novembre, le respect qui est partout en fait.
Et le show à l'américaine.
Et le show à l'américaine, bien sûr. Voilà. On veut voir des performances avant tout, on est d'accord.
On est bien d'accord. Nelson Carvalho, vous nous avez mis l'eau à la bouche en tout cas, ancien combattant professionnel, organisateur du 8e Lions Fighting Championship. Ça sera ce samedi du côté de Neuchâtel. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct dans Cap Sport. On vous souhaite une bonne fin de préparatif et puis surtout de très beaux combats.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Et puis on va rester dans le combat ce week-end sur votre radio, le combat pour décrocher la première place du championnat de Swiss League. Tout d'abord, Ajoie et La Chaux-de-Fonds peuvent encore y prétendre en hockey sur glace. Les deux derniers matchs de la saison régulière, c'est ce soir et dimanche. Derby de l'Arc Jurassien d'ailleurs dans quelques minutes, à vivre sur RFJ et RTN dès 19h30. Et puis dimanche, La Chaux-de-Fonds qui accueille les Ticino Rockets, alors qu'Ajoie va rendre visite à Langenthal, à suivre également dès 18h30. Un combat pour assurer une place en play-off ensuite, celle du HC Bienne. Les Célandais qui accueillent Zurich en National League aujourd'hui avant d'aller défier Fribourg. Deux matchs à vivre en direct sur RJB dès 19h30. Et puis le combat de Neuchâtel-Xamax FCS. Enfin, le combat pour abandonner la place de Lanterne Rouge. Ce sera dimanche sur le terrain de Grasse-au-Père et sur l'antenne d'RTN dès 15h45. Cap Sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de nouvelles thématiques. D'ici là, vous retrouvez toutes les précédentes éditions sur notre site internet. Très beau week-end à vous.
Cap Sport.